Il est 10h sur France Culture et comme on retrouve ses pantoufles, on retrouve la semaine sur le bac. Bonjour avec vous Adèle Mandrette, ça va ?
Bonjour Emmanuel, ça va très bien et vous commencez à passer l'épreuve de ce matin.
Eh bien écoutez, pour moi c'était un vrai plaisir parce que j'avais avec moi Audrey Levray qui a donc travaillé sur les États-Unis et le monde. Et vous avez travaillé sur quoi ?
Eh ben alors nous, c'est une surprise. Savez-vous que la nouveauté cette année, ça fait des années, ça fait 10 ans que les chemins font le bac philo, mais cette année les profs de philo qui se prêtent au jeu découvrent le sujet une heure avant.
Ah!
Et oui.
Et il planche.
Et donc, mon invité, là, vient de faire proposer un plan pendant une heure. Il a bûché. Et maintenant, on a 50 minutes pour décortiquer le sujet en direct devant tous les élèves qui vont nous écouter.
On vous écoute.
À demain, Emmanuel.
À demain.
Alors, imaginez, c'était il y a une heure et demie, le prof de philo David Le Breton débarquait gare Montparnasse avec 3 de ses élèves pour se rendre à la maison de Radio France. Il y a une heure, ils arrivaient tous les 4 dans la salle de réunion de France Culture où l'équipe des Chemins de la Philosophie les attendait de pied ferme pour leur expliquer l'épreuve du jour. Il s'agissait de découvrir en temps réel le sujet sur lequel ils allaient travailler pendant une heure afin de livrer leurs analyses. Et bien, pendant les 50 minutes d'émission que voici, Thomas Beau a enregistré pour vous cette arrivée. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Un petit stress comme un examen.
Mais alors moi, je reviens pas que vous ayez accepté. Je suis ravie.
On va essayer d'être à la hauteur.
Mais j'en doute pas une seconde, sinon moi-même, j'aurais pas accepté. on va vous donner un sujet. Mmh. Il y aura les consignes comme le jour du bac. Et ensuite, vous avez donc une heure jusqu'au direct pour préparer votre copie.
Ok.
Notez tout ce que vous voulez. On va vous donner des feuilles et un stylo. Derrière le sujet, on vous a mis 3 textes avec lesquels on vous propose de composer. Ça vous va ?
Très bien.
Très bien. Alors, je vous laisse découvrir le sujet.
Alors, c'est toujours le petit moment de commotion. Comment savoir qui je suis ? Et donc, les textes qui sont à notre disposition, c'est un extrait du discours de la méthode de Descartes, des essais de Montaigne, et dans le domaine un peu plus littéraire, Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier.
Et donc, vous avez une heure à partir de maintenant.
C'est parti ?
À tout à l'heure.
Je crois que le premier travail en philo, ce serait d'essayer de désapprendre, d'oublier tout ce qu'on a pu vous dire sur la philosophie. C'est déjà le meilleur moyen de commencer à en faire.
Si tu veux me stopper, accroche-toi, t'es prévenu. Le disque d'or, c'est comme le bac, j'ai taffé 2 mois et je l'ai eu. Écoute, tu te plantes complètement, Harry. Tu me prends pour quelqu'un d'autre.
Oh non, mon vieux, c'est toi qui te prends pour quelqu'un d'autre.
Bonjour David Le Breton, rebonjour.
Bonjour.
Donc on s'est vu il y a une heure, on a entendu le montage par Thomas Beau, vous avez découvert le sujet. Comment vous sentez-vous maintenant à 10h02 en direct ?
Moi je pense comme pas mal de candidats, une fois que la première heure de l'examen est passée, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le stress, on est simplement à se dire voilà, j'ai un travail à accomplir, il y en a une partie qui a été faite, et du coup ça enlève le trac qui est lié au flou qui précède l'épreuve, et on est plus dans une sorte de mobilisation, avec parfois simplement l'idée que on est un peu fragile sur tel ou tel point, mais qu'on se sent plus à l'aise ou rassuré par l'idée qu'on va pouvoir aborder telle autre chose, et qu'on a quand même quelques munitions pour traiter le sujet.
Donc ça va mieux une fois qu'on a découvert le sujet, c'est ce que vous dites ?
Oui, parce que...
Le pire, c'est la veille au soir.
L'esprit ne vagabonde plus à imaginer des tas de choses. Maintenant, il est fixé, c'est ce sujet-là. Et il faut se concentrer sur le travail qui est à accomplir. On peut plus, à ce moment-là, trop perdre de temps. Et ça libère d'une partie de l'angoisse. Oui.
Donc vous avez eu une heure pour traiter un sujet, les candidats auront 4 heures. Est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous avez pu accomplir en une heure et que vous allez nous restituer à présent ?
Oh, c'est pas complètement abouti, hein, parce que finalement, il me semble que sur les 4 heures que dure l'épreuve, l'idéal, c'est de pouvoir consacrer vraiment, disons, une heure et demie pour avoir une base de travail, un plan détaillé, afin de se lancer ensuite dans la rédaction. Et surtout, ne pas trop minorer ce temps-là. Je pense que l'une des premières sources d'échec, c'est de ne pas assez consacrer de temps au brouillon et de ne pas avoir la matière première de la copie. Hein. Tout ce que l'on va pouvoir noter ensuite au propre, ça doit être puisé là-dedans. Donc, faut vraiment pas hésiter à apprendre quasiment la moitié de l'épreuve pour enrichir son brouillon, puis organiser, évacuer certaines idées qui ne sont pas pertinentes à la réflexion et aboutir à un plan. Et après, bah, chaque candidat doit jauger en fonction de ses propres capacités. Est-ce qu'il écrit tout lentement? Est-ce qu'il écrit beaucoup ou pas tant que ça? Et voir s'il a plutôt besoin de 2 heures ou de 2h30. Mais à mon avis, ça se joue à peu près dans ces repères-là pour faire quelque chose de bien.
Et ça, c'est pour les candidats qui ont découvert la philo 9 mois avant. Vous, ça fait des années que vous enseignez la philosophie en terminale. Combien de temps?
Oui, depuis la rentrée 2005, donc 14 ans oui.
Au lycée Jean Monnet de Jouy-les-Tours, vous enseignez aussi la maison d'arrêt de Tours. Là, vous ne faites pas de dissert de philo, j'imagine, si?
Non, on ne fait pas faire de dissert aux détenus.
Une autre manière de faire de la philosophie, on en parlera sans doute un autre jour. Je précise donc, vous êtes venu avec vos élèves, Jolane Pourol, Ludivine Rizaché et Laurine Rumor. Elles viendront en fin d'émission, ce sera Géraldine Mosna-Savoie. Ils viendront, pardon, en fin d'émission et Géraldine Mosna-Savoie verra avec eux comment ils ont eux-mêmes traité le sujet. C'est à vous de jouer, David Le Breton, le sujet sur lequel vous êtes tombé. Vous avez ouvert l'enveloppe et ce qui a surgi devant vos yeux est ceci: comment savoir qui je suis? C'est un sujet inattendu, classique. Comment avez-vous réagi?
Alors, c'est un sujet classique dans la mesure où il va piocher dans un domaine du programme qui n'est pas une surprise. Hein. On est dans ce bloc du programme de philo qui s'intitule « Le sujet » et aussi en partie dans le bloc sur « La raison
et
le réel ».
Le bloc, ce sont les notions à étudier.
Voilà, puisque en fait, les listes de notions sont réparties pour l'instant en 5 grandes catégories, 5 grands blocs: le sujet, la culture, la raison et le réel, la morale et la politique. Donc la fin de notre intitulé « Qui je suis » fait plutôt référence à la partie sur le sujet. Mmh. Et le verbe « savoir » au cœur du sujet, lui, nous amène à réfléchir plutôt aux conditions de connaissance et donc à la partie sur la raison et le réel. Donc de ce point de vue-là, c'est un sujet classique. D'autant que ces deux blocs-là, sur les 5, sont sans doute ceux qui fournissent le plus de sujets. Ce sont des habitués, des sujets du baccalauréat, ces rubriques.
Donc si on travaille ce sujet-là et on vous écoute là et on réécoute l'émission jusqu'au bac, on a de fortes chances d'être prêt sur quel que soit le sujet qui tombe. L'identité et le sujet sont des notions qui risquent de tomber le jour du bac.
Alors, les blocs sont quand même vastes. Hein, donc il y a de nombreuses problématiques qui peuvent surgir sur l'identité ou sur d'autres aspects de cette partie du programme sur le sujet, à propos par exemple du désir, qui peut amener vraiment des problématiques plus spécifiques, un peu à l'écart de ce qu'on va aborder peut-être aujourd'hui. Mais on reste dans quelque chose de canonique au niveau du thème de ce sujet.
On a très envie de savoir votre plan. Avant ça, il faut nous dire, avant que vous énonciez votre plan, comment vous avez procédé. Comment est-ce qu'à partir de cet intitulé, « Comment savoir qui je suis », vous produisez ce qu'on appelle une problématique qui était essentielle pour articuler votre dissertation, et ensuite un plan?
Alors, je pense que l'une des bonnes choses, des bons réflexes à avoir, c'est de commencer par regarder le sujet dans sa globalité. Parce que quand on veut tout de suite découper un morceau du sujet, on risque de zoomer sur telle ou telle notion et de se retrouver à faire une copie qui va être beaucoup trop générale, qui va être en fait thématique. L'avantage de ce sujet-là, c'est que il ne comporte pas ces notions du programme comme la conscience, l'inconscient, donc il réduit cette tentation.
Pour de autant, plaquer le cours, ouais.
Voilà. De balancer tout ce que je sais sur la conscience, tout ce que j'ai vu en cours sur l'inconscient, sur la perception ou le désir. Pour autant, il est clairement en lien avec le programme. De ce point de vue-là, ça ne crée pas de difficultés. Mais le but, c'est pas d'aborder un thème, c'est de savoir cerner à l'intérieur de ce thème, pour cette notion ou ces notions particulièrement, le problème qui va se poser.
Alors, quel est-il ici ?
Il y a une particularité qu'il faut quand même évoquer avant dans ce sujet. S'il est classique par son contenu, dans sa formulation, il présente une petite rareté, parce que c'est une question ouverte. Comment savoir qui je suis? Et ces sujets ouverts sont quand même rares, et heureusement, à bien des égards, au baccalauréat, parce qu'ils posent plus de difficultés aux élèves. c'est plus rassurant, un sujet fermé. Un sujet,
fermé, c'est, qui semble impliquer une réponse oui ou non, ou
définitive. Voilà, qui suppose déjà dans sa formulation qu'on soit un peu enfermé dans l'alternative oui, non.
Suis-je le même mauvais. Suis-je ce que mon passé a fait de moi? C'était tombé au bac l'an dernier, je crois, ça c'est un sujet fermé.
Voilà.
Suis-je oui, non.
Parce qu'on demande aux candidats, est-ce que la réponse est oui, est-ce que la réponse est non? Alors les candidats qui sont un petit peu plus fins, un peu plus chevronnés, peuvent s'amuser à déjouer un petit peu le côté très binaire de ce genre de sujet. Mais pour les autres, en tout cas, ça présente quelque chose d'assez rassurant. On sait que l'objectif, c'est dans la conclusion de départager le oui et le non.
Alors que comment savoir qui je suis, on ne sait pas trop dans quelle direction aller.
Voilà, on a quelques sujets de ce genre-là, les sujets qui commencent par comment, par pourquoi, par dans quelle mesure ou en quel sens, qui sont extrêmement ouverts. Et là, c'est au candidat, d'une certaine manière, d'inventer la réponse qui n'est pas déjà soufflée dans le sujet. Et ça, c'est des sujets qui posent généralement deux difficultés. Donc c'est important, je crois, de tout de suite les cibler et te dire « Attention, voilà, j'ai ce genre de sujet, il ne faut pas que je tombe dans ces deux pièges. » Le premier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, se réfugier dans un traitement thématique, s'accaparer une notion et ne pas se demander quel est le problème à propos de cette notion, mais balancer tout ce qu'on sait sur cette notion. Le deuxième, vraiment, sur ces sujets ouverts, c'est de faire une sorte de catalogue. Comment savoir qui je suis? Je peux le savoir en consultant ma conscience, je peux le savoir en contournant les perturbations que mon inconscient pourrait créer pour m'empêcher de me connaître. Je pourrais le savoir en sollicitant mon rapport à autrui, en me demandant ce que autrui a pu avoir comme influence sur la constitution de mon identité. Et puis voilà, empiler toutes ces réponses-là, faire un plan qui amène à passer de l'une à l'autre sans qu'il n'y ait plus la moindre tension, le moindre problème.
Il ne faut plus qu'il y ait de problème quand on commence à disserter.
Ah non, justement, il faut qu'il y soit. Et donc, si jamais on empile ces réponses-là en disant bah, « ça peut être ça, et puis ça pourrait être ça, et puis ça pourrait être ça », on va évacuer le problème. On ne va plus avoir de dissertation à faire, puisqu'au fond, on va avoir une sorte de foire aux réponses qui se présente comme ça. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour éviter de tomber dans ce piège, c'est de remettre un petit peu de concurrence entre ces réponses, de faire comme si elles étaient rivales et incompatibles, et se dire que voilà, il faut que ce soit l'une ou l'autre, il faut que ça se frotte un petit peu et que on puisse pas accepter tout ça puis ça puis ça.
Alors de manière concrète, quand je lis ce sujet, si je me mets à la place d'une candidate, comment savoir qui je suis, j'aurais envie de me demander mais pourquoi la question se pose en fait? Pourquoi est-ce que c'est pas juste un exercice de dissertation de philosophie? C'est une question que j'ai pu me poser. À un moment donné, j'ai pu faire des expériences contradictoires. Et mais en fait, suis-je cette personne qui fait de la radio ou suis-je la maman qui s'occupe de son fils ou suis-je telle autre personne? Est-ce que ce serait un bon point de départ pour la dissertation que de faire référence à son expérience et, par exemple, relater un événement où je me suis posé la question et j'ai été en difficulté, j'étais bien en peine de pouvoir répondre à la question de savoir qui j'étais.
Alors c'est déjà un très bon point de départ pour le travail au brouillon, pour lancer la réflexion, puisque il peut pas y avoir de réflexion philosophique sans un problème. Et au départ, les sujets, ils se présentent sous la forme de questions. Le premier travail du candidat, c'est d'expliquer pourquoi ce n'est pas une simple question à laquelle on peut répondre en deux secondes et puis c'est réglé, pourquoi c'est un problème. On a d'une certaine manière de la chance quand effectivement on se dit que cette question, dans telle ou telle circonstance, on a été amené à se la poser et à en ressentir toute la dimension problématique, à comprendre que ça coince, que c'est quand même loin d'être évident et que les premières réponses qui nous viennent, elles sont finalement assez imparfaites. Et puis quand on n'a pas fait soi-même cette expérience, et bah c'est là qu'il faut peut-être ouvrir un peu le réservoir qu'est par exemple la littérature ou la culture cinématographique et puis prendre le temps de se dire « Moi, je ne me suis pas posé directement cette question-là, je n'ai pas rencontré ce problème, mais il faut que je me l'approprie, parce que je dois le traiter en 4 heures. Alors, dans quelles conditions est-ce qu'on peut être amené à se poser ce genre de questions ? Qui est concerné par ça ? » C'est une façon de rentrer dans le sujet pour ne pas passer à côté du problème, ce qui serait le premier écueil.
Est-ce que c'est ce que vous proposez de faire en début de dissertation ? On a 35 minutes maintenant pour... Énoncer la problématique, l'introduction, le plan. Alors, comment commencez-vous ?
Alors, au niveau de l'introduction, effectivement, on peut mettre en scène une anecdote, un extrait de roman, de pièce de théâtre qui va justement jouer sur cette dimension-là avec une référence qui montrera que derrière ces aspects parfois peut-être anodins, le sujet révèle un véritable problème.
À quoi pensez-vous ?
On peut par exemple, très simplement, même quand on n'a pas une culture littéraire qui semble suffisante, s'appuyer sur une expérience du quotidien telle que le fait de se présenter chez quelqu'un, de sonner à l'interphone et de se voir demander par la personne qui répond qui on est. La plupart du temps, c'est extrêmement mécanique. D'ailleurs, on se contente juste de répondre « bah c'est moi ». Mais si l'autre en face « bah qui moi ?», on peut se rendre compte que c'est quand même très léger comme réponse. Que c'est moi, bah c'est tout le monde, alors même qu'on voudrait pouvoir singulariser sa réponse, dire c'est tel être et personne d'autre, et à partir de là, on peut commencer à prendre conscience de l'insuffisance de cette première réponse.
Ça, c'est votre point de départ.
Bon, ça pourrait faire effectivement l'entrée en matière.
Alors allons-y maintenant, l'entrée en matière, sinon on va jamais avoir le temps d'aller jusqu'au bout de la dissertation, David Le Breton. Alors ça c'est l'entrée en matière. Est-ce que vous formulez une problématique ?
Oui. Alors ce qu'on peut faire, c'est rappeler le sujet, parce que c'est quand même pas mal d'indiquer que c'est parti de là, mais surtout ne jamais se limiter à la répétition du sujet, parce que sinon on répète une question, on n'a pas de problème. Donc pourquoi pas indiquer, voilà, après l'entrée en matière, dans ces conditions, on en vient à se poser la question de point, comment savoir qui je suis ? Et on reformule juste après, en d'autres termes, et là on place la problématique.
Allez-y.
Alors la problématique, elle pourrait être par quel moyen, alors même que bien des choses m'empêchent d'y avoir accès, pourrais-je déterminer ce qui fait mon identité ? Ce qui me paraît assez utile et efficace, c'est de prévoir des formules pour l'introduction notamment, qui vont aider à mettre en évidence dans la problématique une tension. Par exemple, une alternative. Est-ce ainsi ou bien est-ce le contraire ? On scinde un peu sa problématique en deux branches d'une alternative. Ou, comme je viens de le faire là, une formule du type « alors même que » qui montre bien que ça grince, qu'il y a des choses qui font obstacle à la réflexion et qu'il va falloir désamorcer tout ça.
Alors répétez-nous la problématique pour ceux qui n'ont pas un stylo et une feuille à côté du poste.
Donc par quel procédé, de quelle manière puis-je déterminer mon identité, ce qui fait mon identité, alors même que bien des éléments peuvent perturber ce qui la constitue.
À partir de là, un plan se dessine. Est-ce que vous pouvez nous énoncer le plan et puis ensuite on va le développer au fur et à mesure avec les références philosophiques, voire littéraires que vous convoquez. On a quelques textes aussi qu'on vous a suggérés au moment d'ouvrir le texte. On vous a dit qu'il y avait un texte de Descartes, par exemple, le discours de la méthode, un texte des Essais de Montaigne, un texte de Michel Tournier aussi, Vendredi, les limbes du Pacifique. Vous nous direz si vous avez composé avec ces textes ou pas. En tout cas, on vous écoute pour l'énoncé du plan.
Alors, au niveau du plan, il me paraît toujours judicieux de commencer par l'idée la plus commune. Et là, en l'occurrence, je serais assez tenté de penser que la plupart des gens se diront que pour savoir qui je suis, le mieux est encore de plonger en moi-même et d'explorer cette identité à l'aide de sa conscience. Ça permet aussi ensuite d'avoir une sorte de progression, d'aller vers des idées un petit peu plus élaborées, mais toujours commencer par prendre en compte cette idée la plus commune. C'est par ma conscience, par le témoignage de ma conscience, que je peux savoir qui je suis.
Ça, ce sera en première partie.
Voilà.
Articulé autour de la conscience. Et comment est-ce que vous passez à une deuxième partie ?
Alors, il est effectivement très important d'avoir soit des références philosophiques, soit des exemples qui sont un petit peu à double fond et dont une première analyse va tout à fait correspondre à ce qui se traite dans le grand 1, alors que un retour un petit peu approfondi permet de déborder sur le point suivant. C'est par exemple le rôle qu'on pourrait accorder au texte de Descartes. Parce que souvent, ce texte de Descartes, sur le fameux « je pense donc je suis » dans le discours de la méthode, il est conçu comme ça, comme « ma conscience me fait savoir que je suis, j'existe » et me permet d'initier cette introspection à la faveur de laquelle je vais savoir qui je suis.
Donc, alors, ce que je vous propose de faire, c'est de nous dire juste les titres des vos trois parties, puis après on va reprendre le fil et avec le texte de Descartes, on verra comment vous avancez. Donc, en première partie, exploration de soi, exploration de sa conscience. En deuxième partie.
En deuxième partie, signaler que cette introspection, elle révèle le caractère illusoire de l'identité.
L'identité est une illusion.
Voilà.
Et en troisième partie.
L'idée que finalement, l'identité n'est pas à découvrir, mais à inventer, et que c'est encore en créant cette identité qu'on peut le mieux la connaître.
Sachant que la troisième partie est souvent celle où la thèse de l'auteur s'affirme.
Voilà, il faut absolument qu'il y ait un effet de distance qui fasse que le grand 1 soit ce dont on est le plus éloigné, et que le grand 3 recèle la thèse qui sera retenue pour la conclusion.
Alors, on écoute le texte de Descartes, puisque c'est à partir de ce texte que s'articule votre première et votre deuxième partie. C'est donc un extrait du début de la quatrième partie du discours de la méthode de René Descartes.
Puisque je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensais qu'il fallait que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point, après cela, quelque chose en ma créance qui fût entièrement indubitable. Considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillées nous peuvent aussi venir quand nous dormons, sans qu'il y en ait aucune alors qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité, je pense donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, c'est le premier temps de notre série spéciale Bac Philo, où nous aidons les élèves à se préparer pour l'épreuve de philosophie, qui inaugure la série du bac chaque année à la mi-juin. Alors cette semaine, nous recevons trois profs de philo qui acceptent de découvrir le sujet une heure avant l'émission, de plancher dans la salle de réunion de France Culture et ensuite nous corrigent en direct, donc pendant une heure, ce sujet. Aujourd'hui, le sujet est « Comment savoir qui je suis ?». C'est le professeur David Le Breton de Tours qui est avec nous en studio. Il est venu accompagner le trois élèves qui viendront en fin d'émission répondre aux questions de Géraldine Mosnassava concernant ce sujet. Et nous venons d'entendre donc pour cette première partie de la dissertation un extrait du discours de la méthode de René Descartes. C'est un texte canonique que les élèves doivent avoir en tête avant le bac, c'est David Le Breton. Ça leur met de la pression, ça c'est vraiment un texte qu'il faut connaître, non ?
Oui, justement, il faut le connaître et savoir quelles en sont les limites. Parce que c'est certainement, à partir de ces 14 années d'expérience qu'on évoquait tout à l'heure, la citation qui est le plus souvent reprise...
Je pense donc
dans,
je suis.
Voilà, ouais. dans les copies, n'importe quel sujet, c'est assez étonnant, mais n'importe quel sujet amène un ou deux élèves dans un paquet d'un correcteur à replacer ça. Et souvent d'une façon qui malheureusement trahit la réflexion de Descartes à ce moment-là.
Parce qu'il est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît ce texte.
Oui, parce que la question que se pose Descartes dans ce texte, ça n'est pas « qui suis-je ?», c'est d'abord et avant tout « que puis-je connaître ?». C'est un texte qui est beaucoup plus un texte d'épistémologie que un texte sur la subjectivité et sur l'identité. Simplement, il se trouve que la première chose que l'on peut connaître, c'est soi-même, non pas au sens où on va se découvrir et savoir qui on est, mais d'abord et avant tout parce qu'on va savoir qu'on est. On va avoir l'intuition de son existence, ce qui n'est pas la même chose que d'avoir la connaissance de sa personnalité, de son caractère. Donc un texte à manipuler avec précaution, qui a sa place dans notre sujet, mais pas pour lui faire dire ce que Descartes n'a pas en tête à ce moment-là.
Alors dites-nous, comment vous en servez de ce texte ?
Je pense que je consacrerai dans ce grand 1 un premier temps à une approche avant d'en venir à Descartes, par exemple avec celle de John Locke, qui permet d'explorer plus facilement, peut-être plus directement, l'idée que c'est ma conscience qui me permet de connaître mon identité, que c'est même elle qui recèle cette identité. Et ensuite, j'en viendrai à ce texte de Descartes.
Donc John Locke, juste un auteur que les élèves auront étudié, généralement, en terminale.
Il est régulièrement, effectivement, présent dans les salles
Surtout
de classe de terminale.
L'essai sur l'entendement humain.
Voilà, et en particulier, je pense là au chapitre 27, Identité et différence, qui pose cette question de l'identité personnelle.
Très bien. Donc ça, on peut partir de là comme point de départ, et ensuite
Et après, effectivement, pour trouver ce point de bascule qui va permettre d'achever le grand 1 et de préparer le passage au grand 2, en venir au texte de Descartes, parce que le texte de Descartes, il nous fait prendre conscience que l'introspection, qui est au cœur de notre grand 1, elle a son efficacité, mais elle a aussi ses limites. Au fond, dans cet extrait, Descartes a restreint sa recherche aux seules limites de son esprit. Il a évacué la part que son propre corps pouvait apporter dans son identité. La connaissance du corps, qui relève des sens, elle est évacuée, et ça pourrait donner le sentiment que ce que je suis, c'est un pur esprit. Et que c'est grâce à ma conscience que j'atteins cette connaissance de moi comme pur esprit.
Donc vous réintroduisez, enfin vous introduisez la question du corps dès la première partie.
Voilà, le fait de bien signaler que le corps, là, il a été mis entre parenthèses, ça n'est qu'un moment, une étape de la réflexion de Descartes, et il a vocation à revenir ensuite. Jamais Descartes ne dit à proprement parler « je suis un corps, je suis un esprit, pardon, je ne suis qu'un esprit », il dit plus exactement « lorsque je cherche à découvrir la première vérité, je dois laisser de côté pour l'instant, mais ça n'est que temporaire, l'existence de mon corps, et je découvre que j'ai la certitude d'être un esprit ».
Mais alors là, on pourrait, si on est affûté et que Descartes nous est familier grâce à ce texte et votre commentaire, il va le devenir pour les élèves, argumenter à Descartes que le fait de penser que l'introspection, même il essaie de fonder la vérité, il se dit finalement le corps est trompeur, mon esprit ne l'est pas, donc cette vérité je pense donc je suis étant si ferme et assurée, etc. Eh bien va proposer le premier principe de la philosophie que je cherchais, mais rien n'est moins certain que d'assigner son identité à la pensée. Vous l'avez dit au début, quand on vous demande, quand vous dites c'est moi, mais c'est qui, on ne sait pas quoi répondre. Pour pouvoir dire je pense donc je suis, il faut être vraiment sûr de soi.
Oui, et puis il faut...
On fait sans cesse l'expérience de changement d'identité, même par la pensée.
Alors ça nous amène effectivement à un point, quand on prépare le sujet, notamment l'attention qu'il faut avoir à chacun de ces termes. Le « je » du « je suis », quelle consistance il a, qu'est-ce qu'il recouvre exactement. Alors ça, c'est un point que déjà, à travers les références à John Locke, on peut commencer à aborder, puisque dans son chapitre 27, Locke dit bien
« de laisser son entendement humain ».
C'est trop vague, il va falloir préciser, je suis un être, je suis une certaine substance, ok, bon. Deuxième niveau, je suis un être humain, déjà pas pareil. Troisième niveau, et c'est pour ça qu'il parle d'identité personnelle, je suis telle personne, tel être humain, à nul autre pareil, et cette identité, elle va m'accompagner sur toute mon existence. Il y a le présupposé que cette identité, elle dure, qu'elle s'installe, et que ça vaut le coup de se demander comment savoir qui je suis, puisque la réponse que je vais trouver, elle est censée être valable tout au long de ma vie. On peut objecter, à partir de l'examen du texte de Descartes, que cette intuition assez prodigieuse de la part de Descartes, elle est valable que de manière instantanée. D'ailleurs, il dit que c'est ce qui lui paraît vrai à chaque fois qu'il y pense, à chaque fois qu'il prononce cette phrase.
C'est au moment où il dit « je pense donc je suis » qu'il se sert de la pensée comme fondement de son existence.
Voilà, il a à cet instant-là la certitude que c'est valable, mais savoir que c'est toujours le même « je », savoir que son identité est régulière, qu'elle est durable, ça c'est quelque chose qu'on pourrait lui contester. Est-ce que le Descartes qui écrit ça en 1637 dans le discours de la méthode, c'est vraiment le même que celui qui le formulera de façon un peu différente dans les méditations métaphysiques en 1641 ?
Alors, puisque le but est d'essayer d'entrouvrir toutes les pistes que l'élève pourrait explorer le jour de l'examen, vous avez parlé de John Locke, de René Descartes, et pour passer à la seconde partie, vous avez bien dit, mais le corps a été mis de côté. Voici Michel Foucault qui parle de son corps et qui nous permettra sans doute de faire une transition vers la deuxième partie.
Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topie impitoyable. Tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir. Visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener. À travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau, croupir. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné.
Vous connaissiez cet extrait de Michel Foucault, David Le Breton ?
Non, il est assez savoureux.
C'est, n'est-ce pas, de l'entendre de manière si précise et même pas imagée. En fait, il décrit son propre corps dans la glace. Eh bien, soulever le problème à sa manière. Suis-je le corps que je vois, que je n'aime pas beaucoup, au fond, c'est ça ce que dit Foucault. Ça, c'est une expérience qu'on peut tous faire.
Oui, et ça permet de mettre en évidence, au fond, ce qui n'est pas dit dans le témoignage de la conscience qu'on a évoqué dans notre grand 1. Parce que la conscience, si on suit un peu la métaphore policière, la métaphore de l'enquête, c'est un témoin qu'il faut entendre, mais son témoignage doit être pondéré. Notre conscience nous dit, tu es cet esprit-là, tu es cette personne, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas, qu'est-ce qu'elle nous cache, cette conscience ? Il faut sortir un petit peu de ces limites-là et se rendre compte que oui, on est aussi un corps assigné à résidence avec sa propre influence sur ce que l'on est. Même à l'intérieur de l'esprit, et ça c'est quelque chose qui serait à mon avis un pivot dans notre grand 2 sur cette idée que il y a un caractère illusoire de l'identité. Il y a la conscience, d'accord, mais il y a aussi sans doute ce que l'inconscient apporte ou ce que l'inconscient masque de notre identité.
Alors ça, c'est le sujet de la deuxième partie.
Oui, je pense qu'il faudrait pouvoir réagir là-dessus en se disant que tout ce que notre conscience pourrait nous dire de ce que nous sommes, finalement, n'est qu'un épiphénomène, n'est qu'une surface qui n'a pas de vérité à proprement parler, parce que l'essentiel se passe en dehors de la conscience. Au point que, et ça c'est quelque chose qui d'un point de vue méthodologique peut vraiment aider sur ce genre de sujet ouvert, au point qu'on puisse remettre en cause la capacité même à savoir qui on est.
D'autant que si on relie le sujet qui nous occupe, comment savoir qui je suis, le texte de Descartes ne permet pas du tout de répondre à cette question. Il peut fonder que je suis, mais quant à savoir qui je suis, le texte ne nous délivre aucune information.
Oui, parce que finalement, il n'y a pas de dimension vraiment personnelle là-dedans. Le jeu de Descartes dans cette méditation, c'est un jeu qui est totalement dépersonnalisé, qui est le résultat d'une expérience que chacun peut mener à son tour et qui ne tient pas du tout.
C'est un jeu langagier en fait
de la personne. Oui, il y a une sorte de masque, de « je ». Pour l'instant, on met un « je » dessus parce qu'on ne sait pas trop comment le déterminer. Mais il y a bien plus. Quand on ouvre ce « je », on se rend compte qu'il recèle bien plus et sûrement même des choses qu'on ne peut pas identifier, que notre inconscient nous empêche de voir parce qu'il fait écran.
Alors, comment vous articulez cette seconde partie ?
Il faut bien voir que ces sujets comme comment savoir qui je suis, ils ne peuvent poser leurs questions comment, pourquoi, etc. que s'ils présupposent déjà pas mal de choses. On ne peut se poser la question comment savoir qui je suis qu'à la condition d'avoir déjà accepté d'abord qu'on existe. Alors ça, Descartes vient de nous aider pas mal sur ce point-là, ça a bien avancé. Deuxièmement, on existe en tant qu'un « je », qu'on a vraiment une identité, qu'on est une personne. Et troisièmement, ce « je » que l'on incarne, que l'on est, on peut le connaître. Une bonne façon de procéder sur ce genre de sujet, c'est d'aller remettre en cause ces présupposés. De dire, mais au fond, est-on aussi sûr de pouvoir savoir que qui l'on est. Avant de se poser la question comment le savoir, on peut peut-être faire le détour dans ce grand 2 par le est-il seulement possible de le savoir ? Il me semble à cet égard que le grand 2, c'est une partie assez privilégiée pour cette remise en cause des présupposés. Et donc là, on fait intervenir le trouble fait, l'inconscient, en disant il y a une large partie de ce que je suis qui se passe sous le radar de ma conscience.
Le trouble fait, ou au contraire, c'est de lui que part toute forme de fait. Enfin, ça sera encore à discuter. Alors là, est-ce que vous convoquez un auteur, une référence ?
Sur ce point, il y en a deux qui peuvent nous venir à l'esprit. C'est d'une part Freud, parce que c'est en plus le seul des auteurs de la psychanalyse qui soit officiellement à notre programme, et donc c'est lui que les élèves ont le plus probablement rencontré. On peut penser à cette fameuse phrase de « une difficulté de la psychanalyse, le moi n'est pas maître en sa propre maison ». Si le moi n'est pas maître en sa propre maison, si tout se passe dans mon inconscient entre mon ça qui génère des pulsions et mon surmoi qui essaye de contrôler tout cela, de le maintenir à un niveau acceptable, ça veut dire qu'au fond, le moi, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, un résultat d'un processus qui nous échappe totalement. Notre identité, elle se constitue dans le secret de notre inconscient, entre ces deux instances-là, inconscientes, le ça et le surmoi. Et nous voyons apparaître un « je », un moi dont on ne sait pas d'où il provient, ce qui nous bloque complètement à ce moment-là pour répondre à la question « comment savoir qui je suis ?»
Et alors là, c'est dans quel texte de Freud que vous puisez cette réflexion?
Dans un texte qui s'intitule
précis dans les dissertations.
« Une difficulté de la psychanalyse » où Freud explique, essaye de rendre compte des réticences que sa suggestion de l'inconscient, son hypothèse de l'inconscient a pu engendrer. Et il explique que y a une réticence liée au fait que il inflige, selon ses propres termes, à l'humanité sa troisième blessure narcissique. Avec Copernic, il a fallu admettre que nous ne sommes pas les maîtres de l'univers. Avec Darwin, il a fallu comprendre que nous ne sommes pas les rois sur Terre. On pouvait au moins dire, oui, mais bon, dans le petit réduit de mon esprit, au moins là, c'est moi qui ai les clés. Et la psychanalyse tend à nous montrer que non, même pas là, ça ne marche pas. Le moi, conclut-il, n'est pas maître en sa propre maison. Je suis un spectateur un peu perdu qui assiste à l'éclosion de sa propre identité. Je n'en sais pas tout et encore plus, je n'en contrôle pas grand-chose.
Et il y a un autre philosophe, une autre référence que vous voulez
Oui, parce que sur cet aspect de l'inconscient, on n'y pense pas forcément, mais à travers des références comme celle de Marx, on peut évoquer un inconscient social, une construction sociale qui se fait sans qu'on en prenne véritablement conscience. Et là, ça permet, comme tout à l'heure avec le corps, de faire intervenir un autre élément que le sujet aurait tendance à nous dissimuler un peu, parce que le sujet crée une sorte de huis clos entre moi et moi, c'est le rôle des autres, le rôle de la société à laquelle j'appartiens. Marx, dans les textes où il évoque la mise en place des classes sociales, nous explique que au fond, je suis à bien des égards le produit de ma classe sociale et que je ne deviens pas exactement qui je veux. Et ce mécanisme-là, il se fait sans que j'en sois alerté, sauf à avoir accès aux œuvres de Marx et à prendre conscience de ces mécanismes pour pouvoir les enrayer en partie. Mais la plupart du temps, si je m'élève en tant que fils de bourgeois, fils de prolétaire, je le fais en ayant l'impression d'être dans une authenticité totale, alors que je suis dans l'illusion d'un choix, d'une construction de moi-même par moi-même, quand je suis simplement le produit de ma classe sociale.
Mais peut-être à la question « comment savoir qui je suis ?», la réponse est-elle « eh bien, je suis absolument déterminé ». Et ce qui n'est pas une identité psychologique, mais le résultat de structures, comme le dit Marx, qui font que je n'ai aucune liberté de devenir qui je voudrais être.
Et un point commun dans ce cas-là entre les démarches de Freud et de Marx, ce serait que la révélation de ces mécanismes, inconscients pour l'un, mécanismes sociaux pour l'autre, permettrait de s'abstraire au moins partiellement de leur influence et se dire voilà, je suis déterminé par mon inconscient, par ma classe sociale, mais quand j'en prends connaissance, je m'arrache en partie à cette détermination et je peux peut-être me retrouver, évacuer un petit peu la part de cette construction inconsciente, la part de l'autre et accéder à une part de moi-même qui soit un petit peu plus authentique.
Alors pour aller jusqu'au bout dans cette deuxième partie, puisqu'on plonge vraiment dans l'inconscient et qu'on arrive à l'idée que l'identité ne serait peut-être qu'une illusion, je vous propose un extrait de film pour faire la transition vers la troisième partie. Vous nous direz ce que c'est ensuite. Enfin, cette troisième partie, l'extrait de film, c'est un extrait de Total Recall, hein, le film de Paul Verhoeven sorti en 1990, où un individu apprend soudainement que la vie qu'il menait n'est pas la sienne, que la mémoire a été inculquée dans sa propre mémoire, si bien que lui qui pensait être telle personne, eh bien en fait est quelqu'un de radicalement différent. Écoutez.
Laurie. Pourquoi tu fais ça, Laurie ? Réponds, je t'écoute.
Tu bats ta femme.
C'est nouveau, ça.
Je te jure qu'il y a 6 semaines, je t'avais jamais vue. Notre mariage, c'est un souvenir qu'on t'a implanté.
Tu me prends pour un imbécile. On est passé devant le maire.
Ça a été implanté par l'agence.
Et notre coup de foudre. 8 ans de vie commune, les amis, le travail. Je suppose qu'on me l'a implanté, ça aussi.
Le travail, c'est vrai. C'est l'agence qui a tout monté.
Tu te fous de ma gueule.
On a effacé ton identité, on t'en a implanté une nouvelle. On m'a désignée pour être ta femme, pour te surveiller, vérifier que l'effacement avait bien pris. Désolée, Quaid. Toute ta vie n'est qu'un rêve.
Ouais, alors, si je ne suis pas moi, qui je suis, bordel ?
Alors, si vous ne l'avez pas vu, là, je m'adresse à tout le monde, à tous les auditeurs, enfants et parents, d'ailleurs. Ces émissions Bac Philo s'adressent aussi aux parents qui sont parfois plus inquiets que leurs enfants. Eh bien, regardez Total Recall pour la réflexion sur l'identité que ce film soulève, d'autant que c'est un film qu'on regarde avec beaucoup de plaisir. Est-ce que les références cinématographiques sont les bienvenues dans une dissertation, David de Breton ?
Oui, il ne doit pas y avoir de limite dans l'usage de ces références. Il est certain que l'histoire de notre discipline fait qu'on accueille souvent avec plus de bienveillance des références littéraires et même académiques parmi les références littéraires. Mais tout ce qui fait penser est bienvenu dans la dissertation. Donc un film, une série, tout oui. ça peut avoir sa place. Le principe, c'est que il faut toujours s'obliger à les exploiter de façon précise. Ça peut pas être juste une allusion en passant. Il faut vraiment qu'on puisse en retirer quelque chose.
L'analyser comme un texte.
Fait avancer. En fait. Voilà, qui va être utilisé comme une référence. Et de ce point de vue-là, il faut quand même signaler, c'est peut-être la seule limite qu'on peut rencontrer, l'avantage des références plus académiques que nous allons nous utiliser dans nos cours avec nos élèves, c'est qu'ils ont une richesse telle qu'il n'y a pas besoin de beaucoup gratter pour y trouver des éléments philosophiques. Alors que quand on va chercher dans des éléments qui appartiennent plutôt à la culture populaire, cette richesse, elle est davantage enfouie. Il faut un petit peu plus d'expérience peut-être, une acuité du regard un petit peu plus poussée pour se rendre compte que il y a matière à philosopher. Et donc ça va donner peut-être un petit peu plus de travail aux élèves.
Voilà, on peut tout à fait citer une série ou un film, mais ça demande plus de travail que de citer Aristote ou Kant.
Voilà, parce que Aristote, c'est comme une mine à ciel ouvert, tout est là, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser de la philosophie dans les œuvres d'Aristote. En revanche, moi je m'amuse parfois à baser une partie du cours sur un extrait d'un dessin animé, par exemple. Mais il faut mettre plus de choses en place pour y arriver.
Alors, est-ce que c'est un dessin animé qu'on trouve en troisième partie ou un autre philosophe ? Comment vous procédez pour cette troisième partie, David de Breton ?
Alors, dans cette troisième partie, effectivement, je voudrais montrer que si l'identité est une illusion, loin d'être une impasse qui met un terme à notre réflexion, ça offre une opportunité. Parce que, au fond, notre grand 2 représentait un progrès par rapport au grand 1. C'est bien, il faut que ce soit comme ça. Mais il n'a pas encore le dernier mot. Il y a une difficulté que l'on peut rencontrer, qu'il faudrait sans doute mettre en valeur dans la transition et qui va lancer le grand 3, c'est que pour l'instant, on s'est toujours comporté comme si notre identité, c'était déjà quelque chose. C'était quelque chose qui se trouvait en nous. Et il suffit de savoir aller chercher au bon endroit. Est-ce que c'est la conscience qui peut trouver ? Est-ce qu'elle est enfouie plus profondément dans les replis de notre inconscient ? On est quand même resté sur cette idée que l'identité est là, il faut la trouver. À partir du moment où on dit que non, en fait, c'est une illusion, ça ouvre la voie à cette dernière possibilité qui consiste à dire, puisque je n'ai pas d'identité préétablie, j'ai tout le loisir
je peux être qui je veux.
De construire cette identité. Je peux être qui je veux. Et du coup, le statut qu'on accorde à cette identité change radicalement. Ça devient effectivement une chose à inventer et non plus une chose à découvrir.
Qui nous aide à penser ça ?
On peut penser notamment aux réflexions de Sartre dont l'existentialisme est un humanisme, à travers l'idée que l'existence précède l'essence. Typiquement, on retrouve cette idée. Il n'y a pas d'essence humaine et l'individu en lui-même n'a pas d'essence. Il n'est pas fait à l'avance pour être ceci ou être cela. Il peut donc se parer de toutes les identités qu'il souhaite.
Donc la phrase qu'il faut retenir, c'est celle de Sartre, « L'existence précède l'essence ». Vous pouvez nous aider à la comprendre ?
Oui. L'essence, ça désigne donc, sur la base du verbe « être », ce que l'on est, et ce que l'on est de la façon la plus intime, la plus exacte, ce qui nous définit le mieux. Or, pour Sartre, non une essence préétablie que les êtres qui sont le fruit d'une création et d'un créateur. L'existentialisme de Sartre, c'est un existentialisme athée qui met en suspens la question d'un Dieu créateur de l'humanité. Et donc, son propos est de dire, si nous n'avons pas été créés, alors personne n'a été là pour définir ce que l'on doit être, personne n'a été là pour nous écrire un destin, finalement. Quand nous commençons à exister, cette essence-là, elle n'est pas déjà comme une entrave qui nous obligerait à être ceci et pas autre chose. D'où cette idée que l'existence précède l'essence.
Voilà, et qui est développé dans le texte de Sartre que vous citiez, l'existentialisme est un humanisme, qui était vraiment un texte qui court, qui peut s'adresser aux élèves en terminale, et il dit ceci, hein, mais que signifie ici que l'existence précède l'essence ? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après.
Et ce qui est important, c'est de bien voir que l'essence n'est pas évacuée complètement du texte. L'extrait que vous venez de lire en complément dit bien « il se définit après ». Et l'existence précède l'essence, ça veut bien dire que l'essence arrive quand même à un moment. Sauf que c'est celle qu'on s'est choisie ou celle qu'on s'est construite, avec la possibilité, dès lors, contrairement à un destin que nous aurait assigné un dieu, la possibilité de nous en défaire.
Oui.
On peut faire, pour reprendre un exemple célèbre de Sartre dans L'être et le néant, on peut faire le garçon de café, mais il ne faut surtout pas se mettre à croire qu'on est substantiellement, essentiellement, garçon de café.
Un autre texte facile à mobiliser, hein, le garçon de café qu'on trouve dans L'être et le néant, et précisons que cet exemple est parfait pour illustrer le vertige de cette liberté que décrit Sartre, parce que dire que l'existence précède l'essence, ça veut dire que nous ne sommes pas déterminés, ni par Dieu, ni par quoi que ce soit, la différence de Marx où vous situez, mais qu'il est souvent insoutenable d'endosser cette liberté. Le garçon de café joue à être le garçon de café, parce que être tout simplement lui est trop difficile. Donc c'est plus facile de s'en remettre à une partition déjà écrite.
Oui, il y a une sorte de confort dans le fait d'accepter, au fond, l'identité que d'autres voudraient nous assigner, ou l'identité que, par le jeu des circonstances, on s'est constitué, et d'en oublier que ça n'est qu'une création, au point de croire que, finalement, c'est vraiment ça qu'on est,
voilà.
Et on ne peut pas faire autrement que d'être ceci.
Sartre ne condamne pas le jeu, il dit « ça n'est qu'un jeu ».
Voilà,
vous jouez au prof
il
de
rappelle
philo,
que
vous,
c'est
voilà.
un jeu, que c'est un jeu qui a pour vocation de masquer, oui, cette espèce de vertige. À certains égards, on peut penser que les élèves qui nous écoutent, les futurs candidats du bac, ils sont en ce moment futurs étudiants très inquiets de leur avenir. Et peut-être que Parcoursup, la procédure pour choisir ses études supérieures, leur a donné un petit avant-goût de cette espèce de vertige. Voilà, je peux faire toutes les études qui me sont proposées, vers laquelle est-ce que je vais me porter. C'est absolument vertigineux.
Oui, il vous reste moins de 2 minutes pour conclure, David Le Breton, avant que vos élèves ne nous rejoignent en studio.
Alors je pense que il faudrait rappeler pour terminer qu'effectivement cette identité, elle est d'abord et avant tout l'objet d'un processus, d'une production par soi-même, et que c'est en fait en la faisant advenir que on la connaît le mieux, on la connaît parce que on en est l'instigateur. Et pourquoi pas jouer en cette fin de troisième partie et le rappeler dans la conclusion sur les différentes modalités du verbe savoir. Savoir, ça peut être, comme nous l'a expliqué Descartes dans le Grand 1, avoir l'intuition de. Savoir, ça peut aussi être le fruit d'une réflexion, d'un cheminement beaucoup plus intellectualisé. Et puis, savoir, c'est aussi quelque chose qui peut avoir trait à la sensation. Et de ce point de vue-là, on pourrait terminer en expliquant que quand on est dans ce processus de création de soi par soi, si jamais, effectivement, à un moment, on arrive à se trouver, à coïncider exactement avec ce qu'on voudrait être, peut-être qu'il y a un indice qui va nous permettre de savoir que on tient le bon bout, qu'on est exactement là où on devrait être. C'est la sensation de plénitude, de plaisir que l'on va éprouver à ce moment-là. Ce sentiment d'être exactement là où il faudrait, d'avoir trouvé pour coïncider avec son être même.
C'est votre cas en ce moment ?
Oui, là,
ça va plutôt bien. Merci beaucoup, David Le Breton, de vous être prêté au jeu. Je rappelle que vous avez découvert le sujet une heure avant le début de cette émission. Vous venez de nous livrer un plan parfait, en tout cas convaincant, argumenté, etc. On va accueillir maintenant vos élèves qui, eux aussi, ont bûché sur le sujet. C'est Géraldine Mosna-Savoie qui va les interroger. On les retrouve juste après cette chanson qui s'applique aux étudiants qui travaillent aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a un petit moment maintenant, MC Solar chantait victime de la mode. Eh bien, Angèle chante victime des réseaux. Comment être soi sur les réseaux sociaux ?
C'est qu'elle est plus jolie et ça fout la haine. Puis elle poste une photo et l'autre elle met un j'aime. Et puis elle se sent mal, pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment. Car c'est tentant de leur montrer, même si c'est pas vrai. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. Elle se regarde, elle se dit, de toute façon moi je suis mieux qu'elle. Après elle se sent mal, pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller?
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, l'émission spéciale Bac Philo continue. Pour la chronique de Géraldine Mosna-Savoie, et bien aujourd'hui, Géraldine, vous recevez les trois élèves de David Le Breton, c'est ça ?
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est ça, exactement, je vais leur donner la parole tout de suite.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même, c'est incroyable.
Bonjour Ludivine Rizaché, Laurine Rumor et Jolane Pourol, bienvenue. Alors vous avez accompagné votre professeur David Le Breton, vous avez vous aussi bûché sur ce sujet, comment savoir qui je suis. Est-ce que c'est un sujet qui vous a inspiré? Est-ce que vous l'auriez pris le sujet le jour, s'il était tombé le jour du bac, Ludivine?
Moi c'est un sujet que je trouve très vaste, il y a beaucoup de choses à dire dessus, donc d'un côté, c'est un sujet que j'aurais pris, je pense. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et donc ça fait une copie qui est bien construite. Mais d'un autre côté, le risque, c'est que ce soit trop vaste et que justement, on se perde dans les explications et qu'on aille trop loin dans les sujets. Mais je pense que je l'aurais pris quand même parce qu'il y a beaucoup de références dans des films ou autres œuvres. Et du coup, on peut s'appuyer sur beaucoup de choses.
Jolane, vous, je crois que vous ne l'auriez pas pris, ce sujet. Il ne vous a pas inspiré.
Oui, parce que c'est un sujet qui est très vaste. Et quand on a un point de départ, on peut commencer à développer sa pensée. Mais justement, moi, je suis resté peut-être 5-10 minutes devant le sujet sans savoir quoi dire, parce que justement, il est trop vaste et je n'avais pas de point d'ancrage pour commencer à réfléchir.
Vous n'auriez pas forcément trouvé une notion à laquelle vous rattachez, ou le fameux exemple de l'interphone qu'a convoqué votre professeur en début de dissertation?
Je n'y aurais peut-être pas pensé.
Vous, Laurine, c'est un sujet qui vous a inspiré. Est-ce que vous avez suivi avec attention le corrigé de votre professeur? Vous avez pris des notes. Est-ce que vous auriez suivi ce plan-là, commencer par plonger dans la conscience, après découvrir l'inconscient et puis un petit peu remettre des limites à ce déroulé-là?
Eh bien, je pense que oui. J'aurais suivi ce plan parce qu'il me semble que c'est le plus évident et celui sur lequel on peut plus se développer.
Vous avez le droit de critiquer votre professeur et de vous détacher de ce qu'il a dit. Hein.
Il est à 50 cm de vous, donc c'est pas facile.
Néanmoins, je pense que j'aurais pris certains sujets qui n'ont pas été abordés, tels que l'identité de genre ou bien la transidentité, car je pense que c'est des sujets qui doivent être entendus et qui peuvent être plutôt bien dans une copie de bac de philo, en fait.
Plus d'actualité.
Voilà.
Et comment vous auriez intégré justement cette dimension peut-être plus d'actualité sur les transidentités?
Je pense que déjà, comme vous l'avez dit, monsieur, le fait d'être transgenre, d'être une personne transgenre, c'est une identité, c'est quelque chose qu'on cherche et qu'on cherche à savoir. Et donc je pense que dans un sujet comme celui-ci, où on cherche à savoir qui on est, c'est vraiment un sujet qui peut être très passionnant en fait, et sur lequel on peut dire beaucoup de choses parce que c'est des personnes qui doivent être entendues simplement.
Ludivine, à quel exemple vous auriez pensé, ou peut-être autre chose qui vous aurait inspiré? Est-ce que vous auriez pensé à Descartes, par exemple? On a dit que c'était un texte canonique. Est-ce que vous l'auriez forcément convoqué?
Non, je pense que j'aurais pas pensé au texte de Descartes parce qu'il était assez, c'était facile de se perdre dedans et de mal l'interpréter. J'aurais plutôt pensé au texte de Montaigne qu'on nous a présenté des essais.
Alors c'est vrai que il y a eu trois textes qui ont été proposés pendant la préparation. Mmh. Donc il y avait Descartes, Montaigne et Tournier. Et vous, c'est plutôt Montaigne qui vous aurait
inspiré? Oui, c'est plutôt Montaigne parce que je trouvais qu'il a abordé un thème qui est donc le thème de l'influence des autres sur nous-mêmes, sur notre découverte, ce qu'on apprend des autres et ce que ça nous fait apprendre sur nous-mêmes. Et je trouve que le texte est très intéressant, qu'il est plutôt facile à comprendre et que on peut vraiment s'appuyer dessus pour un raisonnement philosophique, je trouve.
Jolane, vous n'auriez pas pris ce sujet, comment savoir qui je suis, mais néanmoins, si vous aviez dû le traiter absolument en dissertation, en devoir sur table, comment vous auriez fait pour vous en sortir?
Alors moi, j'ai beaucoup aimé le texte de Tournier sur... Vendredi ou les limbes du Pacifique. Et on apprend par rapport aux autres, on se construit grâce à autrui. Et l'extrait se termine sur, en gros, la solitude, c'est une dénaturisation de soi-même, et je trouve ça très intéressant. On apprend par rapport aux autres et on est face à soi-même. Enfin, il ne faut pas justement être face à soi-même, il faut se confronter aux autres.
Et en ce qui concerne les exemples, votre professeur avait suggéré Matrix, on ne l'a pas entendu, mais on a entendu Total Recall. Est-ce que vous auriez pu puiser dans la culture populaire des chansons, des livres, des films, sans avoir peur? Est-ce que vous faites plus confiance aux références classiques, c'est plus rassurant, ou est-ce que vous pourriez faire appel à des séries, par exemple, des chansons ou des livres, des films? Ludivine?
Je pense qu'on peut s'appuyer sur des œuvres plus modernes, mais il faut être sûr que... Enfin, personnellement, je fais plus confiance aux classiques, parce que je sais que c'est des choses qu'on étudie, c'est des choses où on est sûr que ça va passer auprès du correcteur, mais je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur des choses plus modernes, tant que c'est bien développé et que ça, on fait bien le lien avec le sujet, en fait. Il faut bien expliquer ce qui le rattache au sujet, que si on place la référence moderne comme ça, sans expliquer pourquoi, on peut se dire, oui, c'est pas assez pertinent, mais c'est pas parce que c'est une référence classique que c'est plus pertinent, c'est juste l'explication.
Allez-y, Jolane.
Mais il y a un risque que ce soit peut-être qu'on fasse un contresens ou même qu'on soit hors sujet. Il faut bien réussir à développer l'exemple pour bien l'accrocher au sujet.
Bah merci à tous les trois et bon courage pour le bac. C'est le 17 juin, c'est ça?
Oui.
Bah bon courage.
Merci.
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 Merci à vous trois. Merci David Le Breton qui est merci encore avec nous en studio. Évidemment, vous devez être fiers de vos élèves et vous de votre professeur, non? Oui. Évidemment, tout le monde va répondre oui. Merci Géraldine, moi je suis fière de vous, n'est-ce pas?
Et moi de vous.
Et votre chronique sera à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.
Un grand merci à Elsa Le Saulnier qui m'a aidé à préparer cette émission, cette dissertation de Bac Philo aujourd'hui avec Isis Jourda, Colomba Grossi, Géraldine Vosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Morgane Danan qui est à la prise de son aujourd'hui, Vincent Schmitt à la lecture des textes. On continue demain pour la suite de cette série spéciale Bac Philo. Demain, ce sera Justine Janvier, professeure au lycée d'Arsonval à Saint-Maur-des-Fossés et au lycée Christophe Colomb à Sucy-en-Brie qui viendra avec ses élèves découvrir, une heure avant l'émission, le sujet qu'elle aura à traiter pendant l'émission. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission qui vient d'avoir lieu en compagnie de David Le Breton et de ses élèves pour, cette fois, vous redécouvrirez le sujet si vous prenez l'émission en cours de route. Et vous pourrez la télécharger, la podcaster pour l'écouter, la réécouter, prendre des notes, etc. pour être fin prêt le jour du bac, le 17 juin donc. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter où on répondra à vos questions et puis peut-être que vous pourrez communiquer avec les professeurs qui participent à cette émission. Voilà, on se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.